Je commencerai par dire que les adultes, les grands, sont inquiets toujours pour les jeunes. Donc la prolifération des images, ça fait partie, je crois, de cette inquiétude. Quand j'avais votre âge, même un peu plus vieux, je pense, 18 ans, vous n'avez pas 18 ans, si ? 18 ans. Quand j'avais 18 ans, j'ai fait des stages pour être moniteur de colonies de vacances. Ça remonte loin, hein, très loin. Et j'ai eu une séance spéciale consacrée à la bande dessinée, où on m'a expliqué que la bande dessinée, c'était très dangereux. Très, très, très dangereux. Que donc, quand je serai moniteur de colonies de vacances, il faudrait que je fasse attention à ce que les petits-enfants, avec dont j'aurai la responsabilité, ben, ne lisent pas trop de bandes dessinées, parce que c'était mauvais pour la morale. Là, le danger, si vous voulez, il était moral. La bande dessinée, c'était un endroit où on faisait l'apologie de la violence. Voilà, les personnages n'étaient pas moraux, c'était assez misogyne, etc., etc. C'était pas tout à fait faux, d'ailleurs. C'était pas tout à fait faux. Mais, bon, ça n'empêchait absolument personne de lire des bandes dessinées. Et vous voyez le climat, un peu. Les adultes étaient inquiets parce qu'ils s'apercevaient que les jeunes lisaient de plus en plus, à l'époque, de bandes dessinées. Un peu plus tard, c'était quoi? C'était la télévision, évidemment. Hein. Un peu plus tard, le danger, l'inquiétude, c'était la télévision. Les enfants, les jeunes, regardaient trop la télévision. Là, le danger, il était plus, je dirais, culturel. Hein. On disait, la télévision, ça abrutit les jeunes. Ils sont là devant, plantés devant leur poste, n'est-ce pas? Et puis, ils n'ont plus aucun esprit critique, ça défile, c'est le flux des images. Et la télévision, c'était l'anti-lecture, l'anti-culture, etc., etc. Bien. Alors, mais pareil, on avait des couplets sur la télévision et les dangers pour les jeunes de la télévision. Et maintenant, c'est les jeux vidéo, c'est l'Internet. Hein. Là, le danger, je dirais qu'il est double. Hein, chez les adultes, l'inquiétude est double. Elle est d'un côté un peu, comment dirais-je, presque médicale. Hein, c'est mauvais pour la santé, parce que ça provoque des addictions. J'ai encore lu hier, dans un journal, un article très sérieux, se demandant si, oui ou non, les jeux vidéo provoquaient des addictions, au sens scientifique du terme, vous voyez, au sens médical du terme. La réponse est, on ne sait pas. On pense, on imagine, mais on ne sait pas vraiment encore. Donc il y a le danger du côté, vous voyez, qui serait du côté de la santé, et puis il y en a un autre qui serait plus du côté, je ne sais pas comment l'appeler, social, je dirais, hein, qui serait que la multiplication, la prolifération des images présente un danger pour la vie sociale, hein, dans la mesure, par exemple, où ça menace la vie personnelle, la vie intime, hein. Les photos qui sont divulguées dans Facebook, enfin, etc. La vie personnelle des gens qui est étalée partout. Donc on a cet autre danger. Voilà. Donc on sait bien parce que, comme ça, d'année en année, de décennie en décennie, les adultes peuvent entretenir leur inquiétude à l'égard de ce qui menace la santé, le psychisme des jeunes. Vous savez, vous voyez bien que ça n'est pas sans raison, hein, c'est pas complètement des inquiétudes dénuées de sens, mais en même temps, il faut aussi bien voir que peut-être que les jeunes sont aussi capables de se défendre un peu contre les images. On va en reparler. Alors, cette inquiétude par rapport à l'image, qui peut aller plus loin que de l'inquiétude, qui peut être de l'agressivité à l'égard de l'image, elle n'est pas nouvelle. Elle remonte très très loin. Pour vous donner un repère historique, que vous pourrez creuser avec vos profs par la suite, parce que j'ai pas le temps de le développer, mais on peut remonter à la fameuse querelle des images, qui se déroule entre le 4e siècle et le 7e siècle, vous voyez, qui donne lieu à le développement de ce qu'on appelait l'iconoclasme, des iconoclastes. Les iconoclastes, les icônes, vous savez, c'est des images. Les iconoclastes, ce sont les briseurs d'images. Ceux qui cassent les images. Parce qu'ils les détestent, ils les haïssent ou ils les estiment dangereuses. Alors, les iconoclastes, c'était c'est à partir du, on va dire, à Byzance, si vous voulez, au 7e siècle, dans les environ 700 et quelques, où l'empereur des chrétiens déclare que les images sont interdites. C'est-à-dire, les images, quelles images? À l'époque, qu'est-ce que c'est les images? Ce sont des représentations de la vie des saints, ou du Christ, ou de Dieu même. Donc, toutes ces images-là deviennent interdites. Donc on va avoir, et donc celles qui existent, il faut les détruire. Donc les iconoclastes, ce sont ceux qui vont aller détruire les images dans les lieux saints, hein, dans les églises, pour protéger les fidèles du rôle néfaste de ces images. Bon, voilà, c'est un exemple, je remonte un peu loin dans l'histoire, mais si vous regardez le cours de l'histoire, vous allez retrouver périodiquement des moments dans l'histoire de France ou d'ailleurs où les images sont agressées, détestées et vouées à la destruction. Par exemple, après la Saint-Barthélemy en France, ce sont les protestants qui vont déclarer les images hors la loi en quelque sorte, hein, hors la loi religieuse, hein, et bannir les images de leur temple. Dans les temples protestants, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de représentation du Christ, de la vie des saints, etc. Voilà, on peut aller jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, à la Révolution française aussi, vous allez avoir des images qui vont être détruites, bien sûr. Tout récemment, bien sûr, avec les talibans en Afghanistan qui ont détruit les images, hein, qui interdisent aussi toute représentation de quoi que ce soit. Voilà. Donc vous pouvez avoir plein d'exemples comme ça, où vous allez trouver, j'en passe, hein, et des meilleurs, vous allez trouver comme ça cette méfiance, défiance, voire haine de l'image. Alors on peut se demander pourquoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe avec l'image qui fait qu'on a de telles réactions. Peut-être faut-il d'abord, avant de répondre à la question, le pourquoi, la réponse par exemple, mais je vais la développer un petit peu, la réponse c'est que si on se méfie tant des images, c'est que les images ont du pouvoir, ont de la puissance. Sinon on ne s'en méfierait pas. C'est comme si c'est comme on s'en méfie, comme on se méfie d'une arme, pratiquement. Alors, pourquoi, d'où vient la puissance de l'image? Alors, peut-être d'abord dire qu'est-ce que c'est qu'une image? Vous savez que en anglais, vous avez deux mots pour image. Vous avez image. Image, ça renvoie à l'image mentale, hein, aux images qu'on se fait dans la tête, aux rêves, etc. Et puis l'autre mot, c'est picture, que vous avez aussi dans moving picture, le cinéma, c'est moving picture. Picture, c'est l'image fabriquée, hein, l'image concrète, l'image qui est fabriquée de la main de l'homme, si vous voulez, hein. Donc ça peut être la peinture, le cinéma, la photographie, ce sont des pictures. En français, nous n'avons qu'un mot, image. Hein, c'est-à-dire qu'on confond, hein, l'image mentale et l'image fabriquée. C'est comme ça. C'est peut-être moins pratique, moins précis, mais c'est ainsi. Mais on peut dire aussi que ça renvoie au fait que ce soit l'image mentale ou que ce soit l'image fabriquée, elles ont le même pouvoir et puis elles ont des points communs. Qu'est-ce que c'est le point commun? Qu'est-ce que c'est qu'une image? Alors, je n'ai pas le temps de trop développer, mais je vais vous dire, l'image, c'est une représentation. C'est une représentation. Une image représente toujours quelque chose. Elle peut représenter quelque chose qui existe, qui est réel. Par exemple, la photographie, si je fais la photographie de cette chaise, ce serait une représentation de cette chaise. Mais la chaise existe. Mais l'image, ça peut être aussi une représentation de quelque chose qui n'existe pas. Hein, par exemple, je peux représenter Cendrillon. Par exemple. Il y a des représentations de Cendrillon. Il y a un monsieur qui a écrit un conte qui s'appelle Cendrillon. Puis après, il y a des dessinateurs qui ont fait des images de Cendrillon. Cendrillon n'existe pas. il y a quand même une représentation de Cendrillon. Donc vous voyez, déjà, il y a deux choses. Hein. Et puis, il y a aussi une autre chose qui est... Donc, c'est une représentation. On peut même représenter des objets qui n'existent pas du tout, des objets totalement imaginaires. Hein, il y a des peintres ou des illustrateurs qui font des dessins qui représentent des choses qui n'existent pas du tout. Même dans l'imaginaire. Enfin, ils l'existent dans l'imaginaire puisqu'ils l'ont dessiné. Alors, l'autre chose que je veux dire, c'est que c'est ça qui est très important par rapport au pouvoir de l'image. C'est que l'image représente quelque chose, réel ou imaginaire, mais ce quelque chose est absent. C'est-à-dire que l'image que vous avez devant vous, elle est présente, mais l'objet, il est absent. Je reprends l'exemple de ma photographie d'une chaise. Je photographie une chaise, ensuite je vous montre la photographie de la chaise. La photographie de la chaise, elle est présente, mais la chaise n'est pas là. Bon, c'est pas très important, une chaise. Maintenant, si je prends la photographie d'une personne que vous aimez, alors je vous montre la photographie de la personne que vous aimez. La photographie, elle est là, mais la personne n'est pas là. C'est une représentation de la personne. Mais regardez, la photographie d'une personne que vous aimez, ça peut vous faire quelque chose, ça peut vous émouvoir. Surtout si cette personne, par exemple, elle est morte, ou elle est loin, ou elle vous manque, ou etc. Ou vous l'aimez, simplement vous l'aimez sur le moment, mais vous ne pouvez pas aimer la photographie, c'est la personne que vous aimez. Mais rien que de voir la photographie, ça vous touche. Il y a un pouvoir de l'image. C'est-à-dire que l'image a le pouvoir de rendre présent ce qui ne l'est pas. Il y a quelque chose d'un peu... ambigu là-dedans, hein, c'est pas... mais c'est ça le pouvoir de l'image. C'est si l'image est forte, si l'image est bien faite, si l'image etc. Eh bien, elle va vous toucher là, elle va vous. Donc, vous voyez par exemple le problème que ça pose sur le plan religieux, par exemple. Si vous représentez Dieu, ben, Dieu est absent. Mais il est présent dans la photographie. Mais si ça vous touche, si vous êtes croyant, et si vous avez besoin de la présence d'un Dieu, de Dieu dans votre vie, vous allez, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie, n'est-ce pas ? Vous allez aimer, adorer cette image de Dieu. Mais l'image de Dieu n'est pas Dieu. N'est-ce pas ? Et donc la confusion vous fait confondre l'image avec l'entité ou la personne, etc. Vous voyez, je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Donc il y a un pouvoir de l'image, n'est-ce pas, qui permet d'influencer, hein, celui qui la regarde et qui peut être évidemment dangereux, qui peut détourner en quelque sorte la personne qui est en contact avec les images de la réalité. Bon, on est toujours dans un rapport compliqué, hein, vous voyez, conflictuel entre la réalité et puis sa représentation. Et à chaque fois qu'il y a des conflits à propos des images, c'est parce que on a peur que l'image, vous voyez, que la non-réalité de l'image, vous voyez, eh bien, influence fortement celui qui la regarde et que celui qui la regarde confonde la représentation avec la réalité. Ce qui se produit souvent. Pas ce qui se produit souvent. Parce que l'image a un pouvoir d'illusion. On a parlé par exemple à propos du cinéma, des théoriciens du cinéma ont parlé de l'impression de réalité qu'on peut avoir au cinéma. Et on va au cinéma, on voit des représentations, on voit des images, on sait bien que ce sont des images, on sait bien que ce n'est pas la réalité. Et pourtant on a l'impression de la réalité. Et du coup ça cause en nous des émotions. Hein, soit on a peur, soit on est triste, ou on rigole, etc. Mais les émotions, ça marche, ça fonctionne. Hein. Ça veut dire que l'image agit sur nous, sur notre système nerveux, elle agit sur nos représentations, et puis aussi, il y a une sorte d'analogie, il y a des analogies entre les images fabriquées, les pictures, et puis les images mentales que nous avons. Par exemple, nous rêvons. Quand nous rêvons, nous vivons des tas de choses. Nous vivons aussi des émotions en rêvant. Pourtant, c'est pas réel, hein, c'est irréel. On se réveille quelquefois avec des... On est dans une émotion, ou dans une, un énervement, ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que l'image, le rêve, a agi sur nous. Ça a agi sur nous, de ce qui était représenté, etc. Et lorsque nous fabriquons des images, vous voyez, eh bien, quelque part, nous essayons aussi de retrouver hein, cette puissance du rêve, hein, cette puissance émotionnelle du rêve. Donc vous voyez tout ce qui est autour de la puissance de l'image, qui est en fait une puissance d'influence sur nous. Alors qui peut s'exercer sur les émotions, mais qui peut s'exercer aussi sur les représentations, les idées, les opinions, etc., etc. Vous savez que la puissance de l'image a été, exploitée en politique, dans l'histoire. Quelqu'un comme Lénine, au moment de la révolution en URSS, Lénine s'est dépêché de s'emparer du cinéma, on pourrait dire, hein, de faire du cinéma une institution nationale, hein, c'est devenu le cinéma soviétique, et pour contrôler hein, la production cinématographique et se servir du cinéma comme d'un instrument de propagande, d'influence, etc. Goebbels a fait de même, c'est-à-dire tout de suite ces gens-là ont bien vu à quel point l'image, hein, l'image, alors je parle du cinéma, mais on pourrait parler des affiches, on pourrait parler de tout un ensemble, n'est-ce pas, d'images, même les illustrations de livres, etc., qui vont aller dans le même sens que le sens de la propagande. La définition même de l'image nous indique d'où vient ce pouvoir qu'elle a d'influencer. Alors, on pourrait dire aussi, une question aussi qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi, je le pose autrement, je veux dire, le pouvoir de l'image, il vient aussi du fait qu'on a besoin d'image. Si on n'en avait pas besoin, il n'y aurait pas de problème. Mais il y a besoin de l'image. Là aussi, vous n'avez qu'à voir que l'histoire de l'image, c'est une histoire qui montre que, au fur et à mesure qu'il y avait des progrès techniques hein, qui se développaient, eh bien, de plus en plus, on utilisait ces progrès techniques pour fabriquer des images, multiplier les images, les reproduire et les diffuser. Donc, vous avez tous ces problèmes-là. Hein. Fabriquer l'image, c'est une chose. Mais ça, c'est facile, vous pouvez faire un dessin, là, tout de suite. Vous avez fabriqué une image. Après, deuxièmement, il y a reproduire l'image. Ce dessin, il est unique. Comment vous allez le reproduire? Bon, il y a des techniques de reproduction d'image. Après, la question, c'est comment vous allez le diffuser. Donc, les techniques de diffusion de l'image, les supports à trouver. Le papier, les journaux, par la suite, l'électronique, le cinéma, la photographie, toutes les procédés de reproduction d'images, la lithographie. Bon, je vais vous rentrer dans les détails. Si vous avez des questions, vous m'en poserez. Mais vous voyez bien que depuis la grotte de Lascaux, bon, la grotte de Lascaux, c'est peut-être même les premières images d'avant. Il y a des c'est une reproduction, c'est une représentation. Si on a fait cette représentation dans la grotte de Lascaux, c'est qu'il y a eu un besoin de le faire. Qu'est-ce que c'était ce besoin? On ne sait pas trop. On pense que c'est peut-être religieux, mais on n'en est pas sûr. En tout cas, il y a des hommes qui ont eu besoin de faire des images sur cette grotte. Le problème, c'est que cette image sur cette grotte, elle est restée dans la grotte. C'était difficile de la transporter ailleurs. Ben, alors maintenant, on a des photographies de la grotte, des images de la grotte de Lascaux, c'est reproduit, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc vous avez comme ça toute une période de temps, une longue période de temps, dans laquelle les images existent, se multiplient, mais sont dans des endroits d'où elles ne peuvent pas être diffusées. Alors, par exemple, dans les églises. Vous avez des églises en Russie, il y a des églises extraordinaires qui sont entièrement couvertes de fresques qui racontent la vie des saints, qui racontent... Et c'est comme ça que le peuple, si vous voulez, apprend des choses. Les gens qui ne savent pas lire... Les images leur permettre de lire. Donc le besoin d'image, c'est aussi un besoin culturel, didactique. Ça permet d'apprendre des choses, de communiquer des choses. Donc vous avez ce besoin-là aussi. Et puis, petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez les supports, par exemple, qui deviennent de plus en plus mobiles. Par exemple, le passage, ce qui est intéressant, c'est le passage de la fresque au tableau. Le tableau, c'est un petit format, c'est transportable, on peut l'acheter, etc. Donc c'est déjà plus facile. Mais le tableau, il y en a un exemplaire. Et puis, on va découvrir les moyens de reproduire le tableau et de diffuser ce tableau à une grande échelle, une grande population. Vous voyez, et à chaque fois, le besoin, on répond à des besoins. Et à chaque fois, ça marche. Ça engendre évidemment des profits sur le plan économique. C'est intéressant. Bon, la photographie, pareil, vous voyez, la photographie va être à la fois un moyen de reproduire des choses et puis de les diffuser, etc., etc. Donc ça, c'est un besoin. Un autre besoin qui est important, qui est fondamental, je pense, c'est le besoin de laisser des traces, d'avoir des traces de la vie, des gens, du monde. Vous savez que les premiers portraits, les tout premiers portraits dans l'histoire du portrait, ce sont des masques mortuaires. C'est les portraits des morts pour conserver la mémoire du mort. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est lié autour de la trace, retenir quelque chose. Les choses sont éphémères, le temps passe, les personnes et les choses apparaissent et disparaissent. Comment garder des traces des choses? Et les images servent à ça. Elles répondent à ce besoin. Aussi bien le besoin de garder des traces des gens, des personnes que l'on aime, comme je disais tout à l'heure, que des paysages, de tout, on pourrait dire. Tout est prétexte, si vous voulez, à avoir des traces. Donc ça, c'est un autre besoin que vient combler l'image et qu'elle ne cesse de combler de plus en plus grâce toujours au développement des progrès techniques. Un autre besoin, je vais peut-être pas faire tous les besoins que comble l'image, mais qui est lié au précédent peut-être, mais enfin qui est... C'est le narcissisme, c'est le besoin d'avoir des images de soi-même. C'est un besoin qui est lié à la construction de l'identité, si vous voulez. Comment on forme son identité? À travers le regard des autres, en se regardant dans le miroir, et puis aussi avec toutes les images de soi que l'on peut rassembler, fabriquer et rassembler au cours de notre... Mais quand je dis narcissisme, ça me regarde moi, mais ça regarde moi aussi dans mon histoire. C'est aussi tous les gens qui m'ont accompagné dans ma vie, les paysages, etc. Ça fait partie aussi du narcissisme. Donc le besoin de se fabriquer des images de soi, de les garder, de les conserver, etc. Et que peut-être un besoin, je ne sais pas, certains le disent, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, qui est un besoin peut-être qui est de plus en plus développé, ou en tout cas qu'on s'est arrangé pour développer, parce que ça aussi, ça rapporte pas mal d'argent, le narcissisme des gens. Voilà, alors donc, on a ces besoins, vous voyez, que comble l'image. Il y en aurait un autre, peut-être, qui est peut-être plus complexe, qui est peut-être plus difficile, mais qui n'est pas lié, qui n'est pas déconnecté des précédents, qui serait un besoin presque métaphysique, je dirais, si on va faire de la philo avant la lettre. Il y en a qui veulent que la philo commence en seconde, alors ça tombe très bien. Ce besoin, ça serait le besoin de redoubler la réalité, la création, par une autre création, les créations d'images. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez d'ailleurs des textes de science-fiction qui racontent bien ça, des histoires comme ça. C'est-à-dire que si vous reprenez tout l'ensemble des images qui ont été créées, eh bien c'est comme une sorte d'univers qui vient redoubler l'univers de la réalité, qui lui est insaisissable. La réalité, le monde sont insaisissables. Et donc, en faisant des doubles, Vous voyez ? Mais saisissable, peu, parce que les images, au moins, elles restent. Ce sont des traces que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Alors donc, ce besoin-là, n'est-ce pas, qui est un besoin, je crois, oui, d'ordre métaphysique, vous voyez, qui est de faire comme si on arrêtait le temps, ou bien on luttait contre l'univers et le côté éphémère de l'univers, pour créer un univers parallèle, quelque sorte. C'est d'ailleurs bien pour ça que, dans certains cas, vous voyez, les théologiens poursuivent les images. Ils disent, mais c'est la concurrence avec Dieu, quoi. On est en train de concurrencer Dieu. Non, non, c'est Dieu qui a fait l'univers, et on n'a pas le droit de faire des représentations de l'univers. Voilà. Bon, il me reste quand même un autre besoin que je gardais pour la fin, enfin, qui est pas, encore une fois, je ne les ai pas épuisés, mais qui est aussi le plaisir. Parce que quand même, les images, ça donne du plaisir. Enfin, certains donnent de la douleur aussi, comme je vous ai parlé, ou bien de la souffrance. Mais disons d'une façon générale, bon, il y a beaucoup d'images quand même, l'art, quoi, toutes les images qui sont d'ordre artistique, ou les images qui sont d'ordre du loisir, hein, du divertissement, eh bien, sont des images qui donnent du plaisir. Alors ce plaisir, il est lié à ce que j'ai dit avant. C'est le plaisir de se retrouver, de se reconnaître. C'est le plaisir de connaître des choses nouvelles, hein, de découvrir, etc. Mais c'est très important, la question du plaisir dans les images, parce que c'est aussi un grand facteur de fabrication, de distribution et de profit lié aux images. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est filmé, ça ? Alors, maintenant, la question serait qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour qu'on parle de la prolifération et qu'on craigne cette prolifération. Je dis un mot sur le mot, hein, quand même, prolifération. Prolifération, vous savez que ça veut dire multiplication, mais ça veut dire multiplication d'abord d'une part très rapide. Très rapide. Combien de fois ça sonne ? Ça va, les minutes ? Ok. Vous savez que dans proliférer, il y a l'idée de rapidité. C'est-à-dire que la prolifération, c'est une multiplication, mais très rapide. Hein? Et puis, d'autre part, dans prolifération, il y a aussi l'idée de quelque chose de nocif. Hein? C'est-à-dire rapide, et c'est pas positif. Hein? Tandis que multiplication, c'est neutre. Hein? C'est même la multiplication des pains, c'était quand même très bien dans l'histoire, dans les évangiles. Mais là, la prolifération des pains, on va pas dire ça, parce que c'est négatif. Vous savez ce qui prolifère, hein? C'est les microbes. La mauvaise graine, ça prolifère. Donc la prolifération des images, ça renvoie à une idée de rapidité et de nocivité de l'image. Alors, rapidité, nocivité, pourquoi est-ce qu'on parle de ça maintenant? Enfin, on en a toujours parlé, hein, mais on en parle encore plus maintenant. Bah parce qu'effectivement, ce à quoi on assiste depuis quelques années, hein, c'est récent, c'est la rapidité de la technique, hein, des évolutions techniques, qui aboutissent à ceci, c'est que y a une sorte de démocratisation, on pourrait dire, générale, concernant la fabrication des images. C'est-à-dire n'importe qui peut fabriquer une image maintenant. Étant donné la miniaturisation des appareils à reproduire, à capter, etc. Donc n'importe qui peut obtenir un appareil. Bon, le coût, c'est pas gratuit, les appareils, mais enfin c'est de moins en moins cher. Donc on peut avoir très facilement, peut se procurer très facilement un appareil à faire des images. Donc là, on a déjà ce point-là. Rapidité, extension extraordinaire. De la capacité à fabriquer une image. Et puis deuxièmement, et c'est peut-être encore plus préoccupant, ça, c'est ce qui préoccupe le plus peut-être, c'est la facilité et la rapidité de la diffusion des images. Voilà, on peut faire très vite une image, et puis on peut immédiatement la diffuser à grande échelle via l'informatique, évidemment. Alors ça préoccupe beaucoup, parce que c'est... Surtout par rapport à ce que je disais tout à l'heure, aux dangers sociaux que fait encourir cette rapidité des images. La prolifération des images, c'est aussi la prolifération des moyens de regarder des images. Voilà. Capter, diffuser, et puis regarder. Parce que si on capte beaucoup d'images, et si on diffuse beaucoup d'images, ben, il faut aussi les regarder. Donc, il y a énormément d'occasions, si vous voulez, je dirais, de regarder des images. Qui sont liées, ces occasions, aux besoins dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien, ils viennent satisfaire les besoins que j'ai essayé de définir tout à l'heure. Donc la tentation est grande, bien sûr, de passer son temps à regarder des images. Hein, regarder des images, alors, sur les portables, sur Internet, et à la télévision, etc. Donc de regarder des images, et avec aussi les jeux vidéo, qui sont des images qui sont dramatisées, enfin, qui ont un jeu... En plus, qui vous entraîne et tout ça. D'où l'inquiétude, voyez, devant cette prolifération d'images. Quels sont les inconvénients de cette prolifération? Alors, on pourrait dire, évidemment, que les inconvénients, vous les connaissez, hein, je vais quand même les dire, parce que je suis là pour ça. Donc, les inconvénients de la prolifération, c'est d'être victime, un peu, du pouvoir hypnotique des images. Hein. Les images ont un pouvoir hypnotique, elles agissent directement sur le système nerveux, elles agissent directement sur l'émotion, elles agissent directement sur le psychisme et entrent en résonance avec vos représentations, avec vos images internes, etc. Donc il y a un danger autour de ce côté hypnotique, mais qui existait déjà pour le cinéma, etc. Hein, c'était, voilà, moi je suis un vieux cinéphile. Et encore, moi, j'ai jamais été encore très addict, mais j'avais des copains qui allaient 3 ou 4 fois par jour au cinéma, s'installer au premier rang du cinéma, et qui s'immergeaient. Hein, le danger, il est là, il est dans l'immersion dans l'image. Alors, bon, il y a celui-là. Le deuxième, qui est corrélatif du premier, c'est évidemment la perte de Ah, j'ai bien fait de m'arrêter. La perte de la distinction entre l'image, la représentation du réel et le réel. Ou la déconnexion du réel total. Ça, c'est aussi un danger. Mais surtout, le danger, la déconnexion totale du réel, je n'y crois qu'à moitié. Par contre, la confusion, ouais, faut se déconnecter complètement du réel, faut vraiment avoir des problèmes psychologiques graves. Ça peut arriver, mais en général, on revient à la réalité. Par contre, la confusion, vous voyez, entre ce qui est réel et ce qui est une représentation du réel, c'est-à-dire avoir la conscience claire que ces images que l'on voit, ce sont des représentations du réel, c'est pas le réel. Ben ça, c'est pas toujours évident. Hein. Il peut y avoir, on peut prendre des vessies pour des lanternes, disait l'autre, on peut prendre des images pour la réalité. C'est évidemment ce qu'essayent de faire les gens qui essayent de manipuler avec les images, hein, de faire passer justement la réalité. Donc là, vous avez toutes les techniques hein, de manipulation des mentalités avec les images. Bon, d'où la nécessité. Hein, d'apprendre à regarder les images, hein, d'avoir une certaine distance, hein, de savoir mettre à distance les images de ce qu'elles représentent. L'autre, qu'est-ce qu'il y a comme autre danger? Bah, surtout ces deux dangers-là, je vous dirai si vous en voyez d'autres dans la discussion. Qu'est-ce qu'il y a comme avantage? Bah, l'avantage, évidemment, c'est le plaisir, premier avantage. C'est de multiplier le plaisir à regarder des images. C'est de multiplier les occasions de se regarder soi-même, l'avantage narcissique. C'est l'avantage aussi d'avoir l'impression que les moments que l'on vit, qui passent très vite, et bien on peut les attraper avec une photographie et puis les garder. Hein. Ça, c'est un avantage, c'est aussi sans doute une illusion. Parce que dans les centaines de milliers, de millions d'images que vous allez regarder, combien vous allez pouvoir retenir, finalement. Voilà. Donc la question, si vous voulez, ce qu'on dit souvent, c'est que devant la multiplication, prolifération des images, on a de moins en moins le choix. C'est comme si on avait de moins en moins le choix des images. C'est comme si on était entraîné dans un flux d'images, hein, et que on avait du mal ensuite à arrêter un peu ce flux et à dire bon, qu'est-ce que je choisis exactement? Comment est-ce que je vais opérer un choix? Et qu'est-ce que je vais faire de toutes ces images? Qu'est-ce que je vais pouvoir construire avec, pour moi, hein, qui soit quelque chose de moi? Ça, c'est plus compliqué. C'est aussi, ce qu'on dit, c'est, ce qui est difficile aussi, c'est de passer, peut-être aujourd'hui, hein, c'est plus difficile, je crois, de passer de la consommation, on pourrait dire, de l'image, ça, à la contemplation de l'image. Il est évident que quand on a, si vous allez vous promener dans un musée, bon, vous passez d'un tableau à un autre, vous pouvez d'abord faire le choix de vous passer un tableau ou de vous arrêter devant un tableau qui vous dit quelque chose, et puis vous pouvez vous arrêter à regarder. Vous avez le temps. Vous avez le temps de contempler ce tableau. Bon, il y a d'autres types d'images où c'est plus difficile, où c'est au contraire, vous voyez, basé sur le flux, sur la rapidité, et où la contemplation n'existe pas. Alors, est-ce que la contemplation risque de disparaître? C'est ce que certains disent, vous voyez, ils ont toujours l'inquiétude, hein. Ou bien est-ce qu'il y a encore place pour de la contemplation d'image? Moi, je pense qu'il y a encore place pour de la contemplation d'image si on décide qu'il y a de la place. Toujours pareil. Il me semble que j'oublie quelque chose. Peut-être que je vais terminer là. Je vous montrerai quelques images pour illustrer ça tout à l'heure. Oui, il y a deux choses que peut-être je vais dire. Une que j'ai un peu dite, mais pas assez, dans les pouvoirs de l'image et les besoins liés aux besoins, c'est le besoin de contrôle. Le besoin de contrôle. C'est-à-dire que faire des images dans un premier niveau de contrôle, si vous voulez, c'est aussi prendre un pouvoir sur les choses. Je l'ai dit ça un peu tout à l'heure déjà. C'est capter quelque chose, arrêter quelque chose, saisir quelque chose, et puis avoir donc une espèce de pouvoir dessus, hein, de cette façon-là. Bon, ça, c'est un aspect du contrôle que je trouve normal, positif plutôt. Puis il y en a un autre qui est de contrôler les autres. C'est-à-dire que les images, la prolifération des images aujourd'hui, c'est aussi la prolifération des images de contrôle, avec les caméras de surveillance. Donc, ça fait partie aussi du tableau aujourd'hui, hein. Et qui est évidemment très préoccupant. Vous savez comment, à Londres, par exemple, la ville est quadrillée par les caméras de surveillance. Alors ça, ce sont des images, toujours des images, mais qui renvoient, vous voyez, à ce besoin des sociétés, hein, de contrôler ce que font les gens, par rapport aux dangers potentiels que représentent toujours les personnes laissées comme ça en liberté. Donc il y a toute cette question du contrôle, hein, qui est intéressante parce que il y a un aspect qui est, encore une fois, que je trouve positif, hein, constructif, hein, de saisir les choses pour avoir un contrôle, pour les ce qui pourrait être un contrôle qui va renvoyer même à une entreprise même artistique, n'est-ce pas, hein, prendre un pouvoir sur les choses avec l'image, et puis un autre qui est de prendre un pouvoir non pas sur les choses mais sur les gens. Et ça, c'est plus problématique. Alors, je vais peut-être terminer en revenant à des philosophes, à Platon et à Aristote, parce qu'on a décidé de faire la philosophie aujourd'hui. Donc, vous savez que cette problématique, si elle est ancienne, elle remonte à la philosophie de l'Antiquité, et que Platon, par exemple, condamnait l'image déjà. Platon disait, mais les images, ce sont des ombres, hein, les ombres sur la caverne. Ce sont des illusions, hein. Les images sont des fausses. Elles vous donnent une image, une appréhension fausse de la réalité. Lorsque vous regardez l'ombre sur la caverne, c'est l'ombre que vous voyez. C'est pas l'objet qui fait de l'ombre. Donc vous vous trompez. Vous vous trompez si vous croyez que c'est la réalité. Donc attention aux images qui sont fausses. Hein. Pascal dira plus tard au XVIIe siècle, sont maîtresses de fausseté. Donc il y a toute une ligne philosophique qui s'oppose à l'image comme étant fausse, trompeuse, dangereuse. Alors aussi bien sur le plan religieux que sur le plan politique, que sur le plan psychologique, etc. Qui condamne, par exemple, l'art. L'art, les arts de la représentation sont condamnables, parce qu'ils sont faux. Alors Aristote, de son côté, dit, les images, on sait qu'elles sont, on sait que ce sont des artifices, elles sont fabriquées, etc., mais elles ont leur raison d'être, elles ont leur utilité. Par exemple, elles ont une utilité ne serait-ce que pédagogique, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui n'a jamais vu un éléphant, il peut au moins voir une image d'éléphant. Ça lui donne une idée de ce qu'est un éléphant. Vous êtes bien placé en tant qu'élève, pour savoir que l'image, évidemment, est un instrument pédagogique intéressant. Mais ce n'est pas seulement ça, n'est-ce pas ? Pour Aristote, c'est aussi quelque chose qui fait partie de l'activité naturelle de l'homme, qui est de représenter. Représenter ce qu'il vit, représenter ce qu'il voit, etc., etc. Donc voilà, on est dans ces deux, on est toujours, finalement, aujourd'hui, dans ces deux tendances, on pourrait dire, qui sont autour de la condamnation de l'image, de la méfiance à l'égard de l'image, et puis de quelque chose qui serait plus optimiste, qui serait du côté de la confiance. Je vais m'arrêter là, puis vous allez me poser des questions.